Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous marquer ma solidarité complète par rapport au combat que vous menez pour les orientations éducatives dans votre pays. Je mène le même combat, même si parfois nous avons le sentiment ici d'être bien minoritaires et de peser de peu de poids par rapport aux orientations économiques libérales qui s'imposent d'une manière souvent très violente. Alors je voudrais juste reprendre quelques points. Sur la question du malaise enseignant, nous avons aussi en France une très grosse difficulté. Les enseignants ne sont pas soumis comme vous à des horaires aussi lourds. Néanmoins, la loi qui a été votée en mars 2005, pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement français, soumet les enseignants à l'obligation de résultat. Alors, c'est très important. Jusqu'à présent, dans la tradition française, l'enseignant n'était soumis qu'à l'obligation de moyens, comme un médecin. Le médecin a l'obligation de soigner, il n'a pas l'obligation de guérir. Et je crois que c'est très important d'entendre que l'enseignant est dans la même situation. Le serment d'Hippocrate que prêtent les médecins en France, c'est le serment qui consiste à tout faire ce qui est moralement acceptable pour amener le patient à la guérison. Le serment que devrait prêter tout enseignant, c'est aussi de faire tout ce qui est moralement acceptable pour amener l'enfant à apprendre. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un. L'enseignant ne peut pas apprendre à la place de l'élève, il ne peut pas apprendre à nager à sa place, il ne peut pas apprendre les mathématiques à sa place. Il peut simplement organiser des situations qui mettent en route la liberté de l'élève qui apprend. Il s'agit de passer d'une pédagogie des causes, qui est une pédagogie mécaniste, une pédagogie taylorienne, dans laquelle l'enfant est perçu comme une machine que l'on fait marcher avec des stimuli, à une conception de l'enfant comme un être qui construit sa liberté et à qui on donne des opportunités, des conditions, on multiplie les conditions en termes d'environnement favorable pour que précisément l'enfant mette en œuvre sa liberté d'apprendre et décide d'apprendre, ce qui ne relève finalement que de sa décision. Alors, cette difficulté-là est considérable parce que dès lors que l'on met l'obligation de résultat et non plus l'obligation de moyens, on entraîne une multitude de conséquences dans l'enseignement. L'obligation de résultat, c'est finalement l'autorisation d'utiliser tous les moyens, même ceux qui sont moralement condamnables. On entend parfois en France des gens qui disent que on pourrait finalement, sans trop de difficultés, distribuer des tranquillisants aux élèves un petit peu turbulents pour qu'ils soient moins chahuteurs en classe. On imagine qu'on peut commencer par les tranquillisants et qu'on peut continuer par d'autres produits et que l'obligation de performance telle qu'on la voit dans le sport, par exemple, produit quelque chose qui est exactement le contraire de la liberté, qui est l'utilisation de toute une série de prothèses mécaniques pour engendrer des meilleures performances à tout prix et des performances qui vont être peut-être techniquement acceptables, mais contraires à l'idée d'un citoyen et d'un sujet libre. Donc cette obligation de résultat qui s'oppose à l'obligation de moyens nous préoccupe énormément. Elle est plus facile à mesurer que l'obligation de moyens. Et voilà une des raisons qui fait que les politiques préfèrent aussi l'obligation de résultats. C'est parce qu'on peut mesurer les résultats scolaires en termes chiffrés, mais qu'on a beaucoup plus de difficultés à mesurer les moyens pédagogiques mis en œuvre par l'enseignant pour aider tous, et même les plus fragiles et les plus démunis, à accéder au savoir, à l'intelligence et à mettre en route leur liberté d'apprendre. Alors, c'est tout derrière cela, le système de la notation des enseignants, le système de l'inspection des enseignants, le système des statistiques sur les résultats des écoles, le système des représentations que les parents ont des résultats des écoles qui est en jeu et qui aboutit en France à un système très concurrentiel aussi. Il est concurrentiel à la fois entre l'enseignement privé et l'enseignement public, mais il devient concurrentiel au sein même de l'enseignement public, puisque les établissements publics se font la guerre, se font la concurrence pour avoir les meilleurs élèves, de telle manière à ce que les meilleurs élèves soient protégés des autres et soient menés dans la compétitivité aux meilleurs résultats. Alors cela aboutit à créer des fractures dans la société française terribles, avec des établissements privés et publics qui sont l'objet de toutes les convoitises à la fois des élèves, des parents et des professeurs, et puis des établissements qui sont des établissements privés et publics où ne peuvent ou ne restent que les élèves qui n'ont pas les moyens financiers ou qui n'ont pas les astuces personnelles pour aller ailleurs. Et ces établissements s'enfuient par tout le monde et ils deviennent des bombes de nitroglycérine que plus personne ne peut contrôler. Et cette fracture entre les bons et les mauvais établissements est en train de faire exploser le système éducatif français, puisque nous ne nous sommes pas attaqués sérieusement à ce problème depuis de nombreuses années. Et l'obligation de résultat que l'on impose aux établissements, indépendamment de critères comme la mixité sociale, indépendamment de critères comme l'épanouissement des jeunes, indépendamment de critères comme l'implication dans des activités personnelles, le quantitativisme des comparaisons internationales qui fait qu'on ne compare que des résultats quantitatifs. On ne compare pas des résultats qui, par exemple, intégreraient l'implication des élèves dans des activités collectives, le service qu'ils peuvent rendre à leurs camarades, l'implication des élèves dans des activités de création ou de documentation. On ne compare que les résultats bruts scolaires, et ces comparaisons internationales, je pense à l'enquête PISA dont vous faites partie, ces comparaisons internationales avec les seuls indicateurs quantitatifs de résultats accroissent considérablement la concurrence scolaire et empêchent les établissements, même qui le voudraient, de prendre en compte des dimensions éducatives qui, elles, ne sont pas comptabilisées dans les résultats parce que, malheureusement, la plupart d'entre elles ne peuvent pas se réduire à des chiffres. Voilà, là, il y a un vrai problème chez nous et je fais partie de ceux qui me battent à la fois au sein du système français et au sein de l'OCDE, l'Europe, pour que les évaluations des établissements intègrent de nouveaux critères. Je voudrais que les évaluations des établissements intègrent, par exemple, la formation des élèves à la participation démocratique à la vie de l'établissement, par exemple les élections de délégués d'élèves, je ne sais pas si cela existe chez vous, intègrent l'implication des élèves dans des activités socio-éducatives et artistiques, intègre l'implication des élèves dans l'aide à leurs camarades et dans la solidarité avec leurs camarades, c'est-à-dire toute une série de valeurs démocratiques qui sont aujourd'hui écartées de l'évaluation des établissements. Donc, même si nous ne pouvons pas renverser le libéralisme économique, nous seuls à l'école, je pense que l'école peut travailler à faire valoir des évaluations de son travail qui ne se réduisent pas à la dimension strictement des acquis scolaires quantitatifs traditionnels, mais qui prennent en compte le développement individuel et collectif de la personne. Et je crois qu'il y a un combat commun à mener pour que les écoles qui le peuvent, qui le veulent, et avec notre soutien, puissent mettre en avant au niveau des parents et des politiques, les objectifs de développement, les objectifs humains que vous avez vous-même soulignés. Je voudrais également dire un mot sur la solidarité. Je crois beaucoup à l'entraide et au travail d'équipe et au travail de groupe dans les classes. J'ai moi-même consacré mes premiers travaux à l'interaction cognitive entre pairs, et c'est un thème qui m'est très cher. La difficulté à l'école française, c'est que sur ce point, il me semble que la formation pédagogique est insuffisante. En particulier que beaucoup de professeurs croient qu'il suffit de mettre ensemble des élèves autour d'une table en leur donnant un travail commun pour qu'ils s'entraident et qu'il y ait de la coopération. Or, quand on met ensemble des élèves autour d'une table pour faire quelque chose, ce qui est spontané et naturel chez les élèves, c'est que ceux qui savent faire quelque chose le font, et ceux qui ne savent pas faire grand-chose ne font rien. Et ils ne font rien parce que s'ils faisaient quelque chose, le résultat serait moins bon. Donc, si on veut véritablement promouvoir le travail en équipe, il faut promouvoir des méthodes pédagogiques de travail en équipe, en particulier la rotation des tâches, qui n'est pas spécifique de l'école, puisqu'on la trouve dans le jeu, mais qui n'est pas ce que l'on trouve dans l'industrie, où précisément on spécialise les gens, alors que dans l'école, l'enfant doit pouvoir occuper tous les rôles et toutes les places dans le groupe pour pouvoir expérimenter divers points de vue et pour ne pas être réduit soit au rôle de leader, soit au rôle de chômeur dans des configurations de groupe qui sont souvent à l'école même des reproductions du groupe de l'entreprise. Nous nous sommes aperçus quand nous travaillons sur le travail de groupe et le travail collectif à l'école que les maîtres font reproduire le modèle de l'entreprise à l'école. Avec, dans le groupe, il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a un spécialiste de l'écriture, il y a un spécialiste du dessin, il y a un spécialiste de la documentation. Chacun fait sa spécialité et personne n'apprend rien de ce qu'il ne sait pas faire. Donc il y a à comprendre la spécificité du travail de groupe en milieu scolaire et en particulier à former les enseignants à ne pas reproduire l'entreprise quand il s'agit de formation. Je voudrais également dire un mot, je suis très touché de votre livre sur l'éducation planétaire. Moi-même, il y a 2 ans, j'ai publié un ouvrage qui s'intitule « Le monde n'est pas un jouet ».« Le monde n'est pas un jouet », qui est un ouvrage dans lequel j'essaye de montrer qu'un des enjeux de l'éducation du 21e siècle, c'est que justement, nous savons aujourd'hui que nous sommes entrés dans l'ère du monde fini, dans l'ère où nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi, où nous avons des moyens de destruction de la planète absolument considérables, où nous savons que l'énergie n'est pas inépuisable, et où nous savons, ce qui est très important pour moi, que la solidarité, avant même d'être une valeur, est un fait. Ce que nous faisons chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, c'est ce que j'essaye d'apprendre aux enfants, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que lui, c'est quelque chose qui, à travers tous ses gestes, va avoir une influence sur le monde et l'univers tout entier. Et quand nous travaillons sur l'éducation à l'environnement, que je me suis efforcé d'introduire dans le système éducatif français, et au développement durable, nous essayons de montrer aux élèves qu'il n'y a pas un seul geste de leur vie quotidienne, et vous parliez de la vie quotidienne dans le 2e point de vos 5 objectifs, qui n'est pas une portée mondiale. Quand je gaspille du papier, quand je gaspille de l'énergie, quand j'abîme un certain nombre de choses, eh bien, je mets en péril l'équilibre de l'humanité. Et je peux apprendre cela dès l'âge de 3 ans, et je dois comprendre très tôt que je suis dans un monde fini. Et je dois accepter que le monde n'est pas un jeu. Parce que ce que j'ai observé, c'est qu'avec les médias, et en particulier la télévision, tous les enfants s'imaginent finalement que le monde est un jeu. Ce qui caractérise le jeu, un jeu de construction par exemple, c'est que si j'ai des cubes et que je veux construire un château avec des cubes, eh bien, je peux détruire le château parce que le temps est réversible. Dans le jeu, le temps est réversible. Le temps va dans les deux sens. Ce qui est cassé peut être reconstruit. Je peux arracher les yeux de ma poupée, mais je n'ai pas le droit d'arracher les yeux de ma petite sœur. Or, ce qui se passe, c'est que les adultes eux-mêmes donnent aux enfants le sentiment que le monde est un jouet, que le monde est un jeu, qu'on peut jouer avec le monde de manière irresponsable, prendre des risques ou faire prendre des risques au monde de manière irresponsable, que ça n'a pas d'importance, qu'on peut envoyer des avions sans pilote sur des cibles virtuelles, massacrer des populations, et que cela est exactement comme un jeu électronique, et qu'il n'y a pas de différence entre le jeu et la réalité. Donc l'école, je crois, a un rôle essentiel dans ce que vous appelez l'éducation planétaire, pour montrer que le monde n'est pas un jeu, pour montrer qu'il y a des blessures qui font mal, qu'il y a des énergies qui ne sont pas renouvelables, que le temps existe et que ce qui est blessé mettra longtemps à se réparer, et que l'enfant doit s'intégrer dans cette solidarité. C'est la raison pour laquelle la perspective philosophique que je mets volontiers derrière, c'est la décentration, c'est l'ouverture à l'altérité. L'enfant tel que nous l'avons aujourd'hui, il est exalté dans la partie infantile de son être. Et moi, je distingue beaucoup l'enfant et l'infantile. L'infantile, les adultes l'ont largement autant que les enfants. L'infantile, c'est le triomphe du caprice. C'est le triomphe du passage à l'acte immédiat. C'est le triomphe du désir que l'on réalise sans réfléchir. C'est le triomphe de la volonté de puissance sur l'autre. Et je crois que l'école a une responsabilité fondamentale pour dégager l'enfant de l'infantile, surtout à un moment où une partie des adultes et des politiques triomphe dans l'infantile, où la machinerie publicitaire utilise massivement l'infantile en disant en permanence à nos concitoyens « tes désirs sont des ordres ». Or, accepter de quitter l'infantile, c'est accepter que nos désirs ne sont pas des ordres. Nous pouvons avoir le désir de tuer quelqu'un, comme disait Freud, et nous n'avons pourtant pas le droit de le faire. L'important, c'est donc d'introduire en éducation cette ouverture vers l'altérité, vers la temporalité, vers la décentration de l'autre, vers l'autre. C'est la possibilité d'être dans une relation au monde qui n'est pas une relation égocentrique, qui n'est pas une relation narcissique, mais qui est une relation d'ouverture et de capacité à entendre les autres et à les entendre comme étant des frères, c'est-à-dire des gens qui partagent mon destin sur un monde qui est définitivement solidaire. Et cette solidarité est très importante. Je terminerai juste d'un mot par le savoir et le croire. Je crois comme vous qu'on ne peut pas vivre sans croire. Je crois néanmoins qu'il y a des savoirs qui font partie de ce monde stable qui peut réunir des gens qui ont des croires différents. Par exemple, quand je travaille sur l'apprentissage de la lecture, je dis aux élèves, il y a des choses écrites sur le papier. Quand il y a un mot dans la langue française qui est écrit au singulier, il est écrit au singulier et pas au pluriel. Et il faut savoir que c'est un singulier et pas un pluriel. Je ne peux pas décider, parce que je le crois, que c'est autre chose qui est écrit. Je dois accepter que ce qui est écrit est écrit. Mais tout n'est pas écrit. Et comme tout n'est pas écrit, si nous nous mettons d'accord sur ce qui est écrit, Nous pouvons discuter de ce qui n'est pas écrit. Nous pouvons discuter de ce que nous pensons de ce qui est écrit, de ce que nous imaginons à partir de ce qui est écrit. Alors, je voudrais simplement ajouter un mot sur la fin de votre intervention. Je crois que nous avons besoin d'un croire humaniste planétaire. D'un croire humaniste planétaire. C'est-à-dire d'un horizon, ce que j'appellerais moi-même d'une utopie de référence, qui soit un horizon d'ouverture, qui soit un horizon de fraternité. Croire que les hommes peuvent se reconnaître comme frères parce qu'ils sont, même s'ils ne donnent pas les mêmes réponses en termes religieux ou philosophiques, les fils et les filles des mêmes questions. Je crois beaucoup à cela. Nous avons dans le monde des religions, des manières de penser, des convictions, des mythes, des rites qui sont différents. Mais ces différences-là, nous les nourrissons aux mêmes questions communes. Nous sommes les fils et les filles des mêmes questions. La question des origines, la question du rapport à l'autre, la question de la capacité d'entrer en relation avec l'autre sans l'assujettir, la question de maîtriser, de réfléchir sur le destin, sur la vie humaine et la fraternité. Je ne pense pas que l'on puisse unifier toutes les croyances. Ce serait une nouvelle forme de colonialisme malsain. Mais je pense qu'il y a un vrai travail interculturel que nous essayons de faire modestement ici, qui consiste à montrer que les différentes religions, que les différents mythes, que les différents rites dans les différentes civilisations renvoient à une même humanité. Et que nous sommes fils et filles des mêmes questions, même si nous assumons chacun notre réponse différente. Et je pense que c'est pareil dans une même famille. Nous sommes fils et filles des mêmes parents, mais nous assumons chacun notre personnalité différente. Et je crois que, après une période des années 80, où nous avons mis légitimement en avant le droit à la différence, et je crois que c'était important d'insister sur le droit à la différence, je crois qu'il faut maintenant insister beaucoup sur le droit à la ressemblance. Nous avons des différences, mais fondamentalement, nous nous ressemblons. Il y a entre les pays d'Afrique, entre les pays d'Asie, entre les pays d'Europe, entre les pays d'Amérique, d'Australie, plus de ressemblance que de différence. Et nos différences ne pourront s'exprimer que si nous acceptons que nous sommes fondamentalement ressemblants, que nous avons les aspirations au bonheur, à la liberté, que nous avons des racines qui se recoupent, des mythes qui renvoient aux mêmes préoccupations anthropologiques fondamentales. C'est la raison pour laquelle je développe beaucoup l'idée qu'il faut, dans le système éducatif, introduire l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude comparée des civilisations, pour que les enfants découvrent que ces civilisations expriment des univers culturels différents, mais que dans ces différences, il y a des profondes ressemblances qui nous rendent frères les uns des autres. Et je crois que l'éducation planétaire pour laquelle vous combattez, pour laquelle je partage complètement votre combat, c'est une éducation qui se fera si nous savons nous reconnaître les mêmes derrière nos différences et nous accepter à la fois identiques et différents. Et ça, c'est un grand enjeu planétaire de l'éducation et qui me semble nécessiter, et là je dépasse un petit peu le cadre de ce que nous avons dit, des échanges plus forts entre nos élèves, nos étudiants et nos systèmes éducatifs. Nous travaillons beaucoup, je travaille beaucoup malheureusement un peu seul avec les pays africains par exemple, qui sont dans une situation de détresse extraordinaire aujourd'hui, et nous découvrons quand nous faisons travailler des élèves français avec des jeunes africains, qu'ils se découvrent ressemblants, qu'ils découvrent leur humanité commune, qu'ils s'apprennent réciproquement des choses les uns des autres, et que si des élèves français peuvent apporter des techniques à des élèves africains, les élèves africains peuvent leur apporter des histoires, des mythes, de l'imagination, de la spontanéité, de la capacité de s'exprimer par le mouvement que notre civilisation française a perdu. Et je crois que ces échanges que nous pourrions développer dans l'éducation pourraient permettre d'aller vers cette éducation planétaire que vous avez très justement vantée et à laquelle je me rallie complètement.